Bruno Fuligny, vous publiez Landru, l'élégance assassine aux éditions du Rocher, donc un livre consacré au sieur de Gambet, au sire de Gambet, comme on l'appelait plus exactement. Pourquoi s'être intéressé à Landru sous un angle un peu particulier, puisque vous faites parler Jean Belin, qui était le commissaire divisionnaire qui a arrêté Landru?
Alors c'est vrai que souvent l'affaire Landru est évoquée à travers son procès, c'est-à-dire un petit peu par la fin. Et ce procès a été un grand moment, bien sûr, dans les annales judiciaires, parce que Landru était un bon client, un bon accusé, plein de réparties. Toutefois, on a l'impression qu'on a tout entendu sur le procès et qu'on ne se demande pas assez comment Landru arrive devant ses juges et devant son jury. Donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est plutôt l'enquête. Comment est-ce que Landru agit et comment est-ce qu'il finit par tomber? Et c'est tout à fait passionnant. Ça fait plusieurs années que je travaille sur l'affaire Landru. J'ai examiné des archives qui sont conservées à la préfecture de police, au ministère des Affaires étrangères et dans d'autres endroits encore. C'est une affaire criminelle hors norme. Mais surtout, ce qui est passionnant, c'est que Landru, qui a agi dans une impunité totale pendant 5 ans, va tomber en une semaine seulement, du moment qu'un policier motivé se charge du dossier. Et ce policier, c'est le jeune inspecteur Belin, plus tard il sera commissaire, mais à l'époque il est inspecteur, et il est inspecteur dans les fameuses Brigades du Tigre. C'est-à-dire qu'avant que l'affaire lui soit confiée en avril 1919, quand une femme disparaissait, eh bien on avertissait le commissariat du coin, on avertissait les forces de police ordinaires qui ne faisaient pas le lien entre ces disparitions et puis qu'il y avait d'autres chats à fouetter, qui ne prenaient pas forcément ça au sérieux. Belin, à un moment, a l'intuition géniale que 2 disparitions de femmes dont il a connaissance ont sans doute un même individu à l'origine. C'est-à-dire qu'à l'époque où le concept de tueur en série n'existe pas, il se dit que 2 disparitions de femmes qui toutes les deux aboutissent à Gambet, c'est pas un hasard, c'est qu'il y a un individu particulier qui a fait disparaître ces 2 femmes. Et donc il se met en quête et il va se rendre compte qu'en réalité ce sont 10 femmes plus le jeune fils de l'une d'elles qui ont purement et simplement disparu. Et l'enquête permettra de se rendre compte que Landru était en relation avec 283 femmes puisqu'il procédait par petites annonces. C'est-à-dire que l'intuition et la motivation d'un jeune policier qui se met vraiment en piste, alors même que sa hiérarchie ne le soutient pas, n'y croit pas du tout, va faire tomber un des plus grands criminels de l'époque, et avec une instruction qui va durer 2 ans et demi. C'est ça qui est fascinant, je trouve, dans l'affaire Landru, comment un policier va suivre une piste, en quelques jours va faire tomber quelqu'un, et on va se rendre compte que cet homme, qui n'est connu que comme un petit escroc sans envergure, est l'un des pires tueurs de son temps.
Rien ne prédisposait Landru à devenir ce tueur.
Au contraire.
Une éducation tout à fait classique, une école religieuse. Ensuite, il essaie d'avoir un diplôme qu'il n'obtiendra pas, mais il se marie, il a des enfants, donc c'est quelqu'un tout à fait classique.
C'est monsieur tout le monde. Il est très intéressant aussi de ce point de vue-là. C'est pas d'abord quelqu'un qui appartient à la pègre, pas du tout. Ça n'est pas non plus sadique, un malade, comme le sont souvent les tueurs en série. C'est un monsieur qui présente bien, très organisé, très éduqué. Alors il vient d'un milieu modeste, mais qui a cherché à s'élever, si vous voulez. Il a grandi sur l'île Saint-Louis, au cœur de Paris. Il a été enfant de cœur. Il a fait son service militaire, où il a été bien noté. Il avait démarré dans la vie comme employé. Bon, ça semblait bien se passer. Puis alors il s'est produit quelque chose, c'est qu'il avait des ambitions, mais pas de diplôme. Sa famille n'avait pas pu lui payer de longues études, donc il a commencé à jouer un petit peu dans l'imposture. Il se prétendait ingénieur. En fait, il n'était pas du tout ingénieur, mais il avait travaillé autour de la mécanique. Il disait des fois architecte. En fait, il était commis dans un cabinet d'architecture, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et puis, il était aussi inventeur. C'est quelqu'un qui aime la mécanique, qui a la passion de la mécanique, à telle enseigne qu'il va avoir l'idée d'un vélo à moteur. Et non seulement il a l'idée, mais il fabrique un prototype et il dépose un brevet. J'ai retrouvé à l'Institut National de la Propriété Industrielle le brevet déposé en 1899 par le jeune Landru pour ce vélo à moteur. Simplement, Landru n'est pas un homme d'affaires, il n'arrive pas à transformer son invention en une industrie, si vous voulez. Et donc, il va se rabattre sur l'escroquerie. Il va utiliser son invention pour appâter des associés et puis va s'enfuir avec les fonds qu'ils lui ont confiés pour développer l'invention. Et c'est à cette occasion qu'il fait une découverte. Lui, à la fois très séduisant, très poli, très gentil, très à l'écoute, très attentionné, eh bien, a un succès particulier auprès des dames, les veuves, les épargnantes, les dames seules qui ont un petit peu d'argent de côté, eh bien, il réussit tout particulièrement à les mener par le bout du nez, et c'est ainsi qu'il va glisser de la simple escroquerie financière à l'escroquerie au mariage et au crime.
Effectivement, de l'escroquerie au crime, il y a quand même un pas qu'il faut franchir et qui est quand même assez grand. Et il va le franchir, mais tout en restant ce monsieur tout le monde.
Oui, extérieurement, il paraît insoupçonnable. On a l'impression d'avoir affaire à un petit bourgeois tout à fait, comment dirais-je, tout à fait sympathique et bien élevé. Par exemple, un écrivain comme Jules Romain, qui n'est pas le premier venu, qui n'est pas un imbécile, sera extrêmement surpris quand éclatera l'affaire de voir que cet assassin n'est autre que son garagiste. C'est-à-dire que Jules Romain, qui avait une automobile, eh bien, confiait l'entretien de son automobile à un garagiste qu'il avait rencontré en banlieue, et ce garagiste, c'est Landru. Et Jules Romain a laissé plusieurs textes expliquant à quel point il allait avec plaisir à son garage parce qu'il avait trouvé un garagiste sympathique, cultivé, qui avait de la conversation, qui ressemblait plus à un notaire ou à un avocat qu'à un mécanicien. Donc, Landru présente bien, je dirais, il présente presque trop bien. En fait, de ce point de vue-là, il est assez typique de l'escroc, hein, qui, par toutes sortes d'apparences extérieures, essaye d'inspirer confiance. On dit en général que les escrocs ne tuent pas, que c'est une délinquance strictement astucieuse, mais ça ne fonctionne pas avec Landru. Landru est un escroc qui, pour escroquer gros, eh bien, va aller jusqu'à l'élimination de ses proies, parce que ces femmes, finalement, il va leur faire miroiter une nouvelle vie, il va leur jouer la comédie du mariage, des sentiments. Ce sont des femmes seules, des femmes plus très jeunes, elles sont émerveillées qu'un homme aussi séduisant s'intéresse à elles, et elles vont partir. En fait, quand elles vont dans sa maison, à Vernouillet d'abord, puis à Cambay, elles ne partent pas juste pour passer quelques jours en villégiature. Elles partent parce que, normalement, c'est le début d'une nouvelle vie. Il leur a fait miroiter une installation dans une ville lointaine, éventuellement aux colonies, aux Amériques, enfin. Donc, elles partent pleines d'espoir. Elles emportent évidemment leurs bijoux, leur argent. Elles signent des procurations pour liquider ce qui reste sur les comptes bancaires. Bref, elles s'offrent littéralement à cet homme par amour, et elles ne comprennent pas, bien sûr, qu'elles vont être tuées pendant leur séjour et qu'on ne retrouvera jamais leurs traces. Ça, c'est une des autres particularités de l'affaire Landru, c'est qu'il n'y a pas de cadavre et il n'a jamais avoué. Donc, on compte 11 disparitions, 10 femmes et le fils de sa première victime, 11 disparitions, mais on n'a jamais retrouvé les corps et Landru n'a jamais avoué, n'a jamais admis avoir tué ces personnes. Il a admis avoir escroqué des gens, mais il expliquait que ces femmes ensuite l'ont quitté, sont parties, et quand on lui demandait de préciser où elles étaient parties, quelle était l'histoire, eh bien il se réfugiait derrière le mur de la vie privée, comme si ces femmes avaient disparu de leur propre chef. Inutile de dire que ces femmes ont disparu définitivement, ni pendant le procès, ni après la mort de Landru. Pendant des décennies, personne ne les a jamais revues, même leurs familles n'ont jamais eu de nouvelles. Le doute serait permis s'il n'y avait eu qu'une disparition de femme, mais 11 disparitions, c'est quand même beaucoup. Donc ça s'ajoute à d'autres présomptions qui ont fait que Landru a été considéré comme un assassin.
Alors Bruno Fellini, il y a des choses qui sont étranges quand même, parce que quand il va à Gambet, il va évidemment par le chemin de fer, il prend un billet aller-retour pour lui et un billet aller pour la femme qui l'accompagne. Ce sont des preuves qui sont évidentes.
C'est intéressant. Ça, c'est une petite radinerie qui va lui coûter cher parce que, bien sûr, ça accrédite l'idée que les femmes qu'il amenait à Gambet n'étaient pas censées revenir. Et non seulement il a la maladresse de leur acheter un billet aller simple alors qu'il s'achète un aller-retour, mais il le note. Ce qui va véritablement perdre Landru,
Le
ce
petit
sont
carnet,
deux
son petit
petits
carnet.
carnets, ouais, qu'il avait sur lui, qu'il cherche à faire disparaître au moment de son arrestation, mais l'inspecteur Belin voit ces petits carnets, s'en empare. Et à sa grande surprise, se rend compte que notre Landru, en bon petit bourgeois, note ses rentrées et ses dépenses, note toutes sortes de faits qui permettent de suivre presque au jour le jour son activité. Et par exemple, bizarrement, chaque fois qu'une femme disparaît, on voit un afflux d'argent sur ses comptes. Chaque fois qu'une femme disparaît, il achète de grosses quantités de charbon. Parce que s'il n'y a pas de corps, Belin suppose qu'en fait Landru dépeçait les cadavres de ses victimes, qu'il brûlait les éléments reconnaissables dans la cuisinière. Petite cuisinière, il ne pouvait pas y brûler un corps entier, mais sans doute y a-t-il brûlé les mains, les pieds, les têtes, et puis qu'il jetait dans la nature, hein, à Gambet, les endroits ne manquent pas, le reste, les éléments de membres, de troncs, etc. Donc, Landru est quelqu'un de très organisé, mais tellement organisé qu'il devient son propre ennemi, parce que c'est lui-même qui va fournir les preuves. Il n'y a pas d'aveu, il n'y a pas de cadavre, mais dans ce petit calepin, avec cette histoire de billets de train aller simple, avec ses achats de charges, charbon, avec des achats aussi complètement démesurés de scie à main qu'il utilisait vraisemblablement pour scier les os des corps, eh bien, ça ajoute des présomptions très fortes sur son activité criminelle, sur son activité de dépeceur, hein, puisque les assassins de son espèce qui dépecent les corps, on les appelle ainsi, les dépeceurs, ce sont les assassins un petit peu méticuleux du monde du crime, ceux qui ne laissent pas de traces derrière eux. Il y a une photo que je reproduis dans le livre et qui fait froid dans le dos. C'est une photo que l'identité judiciaire a prise dans la cave de Landru. Dans cette cave, il y a une espèce de dalle en ciment qui ressemble un peu à une table d'opération. On peut supposer qu'il découpait les corps sur cette dalle. Juste à côté, il y a un tas de sable, bizarre, dans une cave, qui pouvait sans doute servir à sécher le sang issu de l'opération. Et puis, il y a un petit escalier qui mène directement dans la cuisine où il pouvait ainsi incinérer les éléments qu'il jugeait compromettants dans ses corps dépecés. Donc, il y a une véritable petite industrie, un atelier Landru. Il ne construit pas de moto, il a renoncé, mais c'est un atelier du crime. Il a mis véritablement son ingéniosité au service du crime.
Ce qui est aussi extraordinaire, c'est qu'il est condamné, bien sûr, condamné à mort, à la guillotine, mais il part avec son secret.
Oui, son avocat, Maître de Mourgiafer, au moment où Landru marche à la guillotine, le prend à part et lui demande quand même, il a toujours nié, mais est-ce qu'il a vraiment tué? Et Landru lui répond, Maître, j'emporte mon secret, ce sera mon bagage. Et donc Moreau ne saura jamais si le client qu'il a défendu était vraiment coupable ou pas. Landru est un maître de l'ironie et de l'humour noir. On lui prête quelques paroles macabres au moment de son exécution. Par exemple, quand le coiffeur vient pour lui dégager la nuque, hein, ce qu'on fait évidemment avant de guillotiner quelqu'un ou ce qu'on faisait à l'époque, lui dit « Faites-moi une coiffure à la mode, il faut encore que je plaise à ces dames ». Bon, elle est peut-être apocryphe, mais elle est révélatrice de l'esprit de Landru ou des mots d'esprit qui tournent autour de Landru à cette époque. Et puis, lorsqu'on lui propose la dernière cigarette et le verre de rhum traditionnel, il refuse, je ne fume pas, je ne bois pas, et c'est mauvais pour la santé, ajoute-t-il. Quelqu'un qui va être guillotiné dans les secondes qui suivent, c'est assez glaçant et c'est assez drôle, mais c'est glaçant et grinçant à la fois.
Alors on ne va pas bien sûr s'attarder sur le portrait psychologique parce qu'il y aurait beaucoup à dire, là, peut-être la schizophrénie de Landru, mais il y a une femme qui s'appelle Fernande Segret, on la découvre à la plus vers la fin du livre, qui est alors la rescapée de Landru, une des rescapées.
Plus qu'une rescapée, parce que bon, il y a beaucoup de femmes que Landru a approchées, qu'il n'a pas tuées parce que soit elles n'avaient pas assez d'argent, elles n'étaient pas intéressantes, soit parce que elles avaient une famille trop nombreuse et que c'était compliqué de les faire disparaître. Mais Fernande, elle, occupe une place à part, car c'est la maîtresse en titre de Landru. Et on peut raisonnablement penser qu'elle n'était pas du tout destinée à finir à Gambet. Elle, c'est une femme jeune, hein. Quand Landru est arrêté, il a juste 50 ans, c'est le jour de ses 50 ans, et il a passé la nuit avec elle, et elle a 25 ans. Donc elle a 25 ans de moins que lui. Landru est marié à 4 enfants, mais il vit très peu avec sa femme, il passe de temps en temps pour déposer de l'argent, mais il est très occupé évidemment par sa chasse, hein, bien sûr. Et puis il y a le repos du guerrier, c'est auprès de cette Fernande, qui est une très jolie jeune femme. Ils ont une sorte de garçonnière, de bonbonnière à Paris, rue Rochechouart. Il a passé la nuit avec elle. C'est chez elle qu'il est arrêté le 12 avril 1919. Elle l'aime. Elle va venir témoigner en sa faveur au procès. Très peu de gens viennent témoigner en faveur de Landru à cette époque-là. Elle s'évanouit d'ailleurs pendant sa déposition. Et puis elle est évidemment très triste quand son amant est condamné à mort. Elle va se produire parce qu'elle se dit comédienne. Bon, c'est une comédienne plutôt amatrice, mais elle va se produire un petit peu sur les planches en profitant du renom un peu étrange que lui donne l'affaire Landru. Puis elle comprend que tout ça est d'assez mauvais aloi. Elle disparaît. Elle disparaît parce que elle part au Liban, qui à l'époque est sous mandat français, et elle se fait oublier. Elle est préceptrice dans une famille, elle est institutrice, elle va passer l'essentiel de sa vie au Liban. Et elle rentre en France après la Seconde Guerre mondiale. C'est une vieille dame. Tout le monde a oublié l'affaire Landru. Elle essaye de vivre tranquille dans l'Orne. Bon. Et là, il se passe quelque chose d'imprévu. C'est en 1963. Donc, on est très, très longtemps après l'affaire. En 1963, sort le film de Chabrol avec Charles Demers, Landru, sur un scénario de Françoise Sagan. Un film qui est d'ailleurs très documenté, très proche de l'histoire véritable de Landru. Et donc, imaginez, dans les journaux, sur les murs, avec les affiches, partout, on reparle de l'affaire Landru et des détails. Pire, dans le film de Chabrol, Fernande Segret est un personnage qui est incarné par Stéphane Audran. Et donc, la vraie Fernande Segret, épouvantée, voyant cela, d'abord fait un procès à Chabrol, considérant qu'on attente à sa vie privée. Elle perd le procès et désespérée. Parce que l'affaire Landru est en quelque sorte de nouveau sur le devant de la scène, eh bien, elle va se suicider. En 1968, elle se jette du haut du château de Flers, dans l'Orne, elle se tue, et elle sera ainsi la 12e victime de Landru, mais plus de 50 ans après les faits.
Voilà, et on découvre dans sa chambre une photo d'elle et de Landru, presque comme un vrai couple.
Oui, parce que Landru l'avait demandé en mariage, pour ce qui était évidemment un mensonge. Et elle ne le connaissait pas sous le nom de Landru. Elle le connaissait sous le nom de Guillet, et elle ignorait qu'il avait déjà une femme et des enfants. Mais Landru l'avait demandé en mariage, et en fait, elle s'est suicidée exactement, jour pour jour, au 50e anniversaire de la demande en mariage de Landru.
Merci Bruno Fuligni de nous entraîner sur les routes du crime de Paris à Gambet en passant par Vernouillet avec ce livre Landru, l'élégance assassine, publié aux éditions du Rocher. Merci beaucoup.
Merci à vous.